Ok. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de calendriers. Il y a le calendrier julien grégorien, comme on l'appelle, qui est basé sur la circonvolution du Soleil, de la Terre autour du Soleil. 365 jours, un quart et des poussières. Et on va diviser cette année-là en 12 mois. Et le calendrier lunaire, musulmans et juifs à moitié, le juif il chevauche et solaire et lunaire, qui va d'après la notion du mois, d'accord? Nous, le mois fonctionne après la lune. Et puis encore une datation, tout à fait autre, qui ne fonctionne pas d'après les dates de mois ou d'après les jours dans le mois, mais d'après les semaines de la paracha. Il y a des... Les fêtes juives fonctionnent d'après une date dans le mois. 15 Nissan, c'est Pessah. 10 Tishri, c'est Yom Kippour. Et avant, après, tu peux, si tu trompes de date, c'est très grave. Tu manges du Hametz à Pessah ou tu manges le jour de Kippour. Il y a certains éléments juifs qui fonctionnent d'après les parachutes, d'après les parachotes. La paracha de la semaine. Entre autres, dès ce samedi soir, nous rentrons dans les 6 semaines qui sont appelées les semaines des Shovavim. Shovavim, c'est en fait racheter votes, l'acrostiche, les premières lettres, des 6 premières sidras de la semaine, des parachéotes, du livre de Shemot. On finit ce Shabbat, le livre de Bereshit, avec parachat de Vayechi, et dès samedi soir, commence déjà, on rentre dans la semaine qui aboutira à Shemot. C'est la semaine dans 10 jours, donc ça fera en date... juive, on est quelle date là maintenant? Le 13, on est le 13 Tevet qui est le 13 janvier. Donc prenez environ dans 10 jours, le 23 janvier, 23 Tevet, on sera Shabbat Shemot. Mais Shabbat Shemot, la semaine de Shemot commence déjà le dimanche d'avant. Et on rentre dans ces 6 semaines-là qu'on appelle Shovavim. Shovavim, alors Shin comme Shemot, après Vav, O comme Vaera, après Bet Bet comme Bo Beshalach. Après Yud comme Yitro et même comme Mishpatim. Les années embolismiques de 13 mois, on rajoute encore 2 semaines. Taf, taf, Shovavim, Tat, comme on l'appelle, taf, taf, c'est Trouma Tetzaveh. Cette année n'est pas embolismique, donc on n'aura que 6 semaines. Durant ces 6 semaines-là, c'est les meilleures semaines durant toute l'année pour faire Tikkun Abrit, réparer ce qu'on aurait été amené à pécher au niveau de la Brit, la Brit Mila. Spécialement le Zera le Batala. C'est quoi Zera le Batala en français? Semence en vain. Involontaire, volontaire, en relation ou hors relation, c'est un péché grave qui touche ce qu'on appelle le Yesod. Yesod, c'est la base. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Les mondes supérieurs divins sont créés avec des sphères. Nous avons une image de ces sphères en quelque sorte. On a les 3 parties du cerveau qui correspondent à Chochma Bina Vadaat, les 3 sphères les plus hautes. Après, on a les sphères qui correspondent à Chesed, Din, Tiferet, c'est le corps. Les jambes, c'est Netzach et Hod. Yesod, c'est l'organe sexuel. Yesod, c'est la base. Malchut, c'est la royauté, c'est la dernière, c'est le gland. Le gland de l'organe sexuel. Yesod, c'est la base. C'est la base sur laquelle est construit tout l'être. Tout le monument, l'édifice spirituel des mondes supérieurs et l'édifice spirituel de l'être, il a une base, des fondations. Si les fondations, elles s'écroulent, l'être, il s'écroule. C'est pour cela que, d'après la mystique juive, d'après toute la Torah, il est extrêmement grave de toucher la brite. Or, aujourd'hui, surtout si on est né en France, c'est carrément impossible de ne pas avoir au moins une fois dans sa vie, avoir une, comment tu appelles cela? C'est la semence en vain. Donc il faut réparer. Et le moment approprié le plus durant toute l'année, ce sont ces dates-là qui sont des dates de semaine de parachiot. Ce n'est pas des dates de mois, ni lunaire, ni solaire. On parle maintenant de paracha. Dès samedi soir, commence ce grand tikkun. Juste, on va peut-être quand même marquer le point. Au niveau de ces dates, de ces datations de Shovavim, samedi soir, nous serons exactement une année après le tsunami. Le tsunami a eu lieu et peu de gens ont fait attention à l'époque. Moi, j'avais regardé tout de suite et je pense avoir fait un rapport. Je pense que c'est un rapport qui est juste. Le tsunami a eu lieu samedi soir du premier jour des Shovavim. L'année passée, des Shovavim Tat, c'est un super tikkun. Quand on a 8 semaines et pas 6 semaines, c'est un tikkun beaucoup plus grand. Quand on a une année embolismique, alors on fait les 8 semaines de Shovavim, Shovavim Tat, c'est un tikkun beaucoup plus grand que les années normales de 6 semaines. Dieu a amené un déluge il y a environ 4000 ans. Dieu a détruit l'armée égyptienne sous les eaux. Et on a vu encore une chose terrible, l'année passée, le tsunami, 300 000 personnes, en quelques secondes, comme ça, pris par les eaux.
Ah. Il y en a qui ont fait le rapport aussi avec le tsunami et la
part de ça. Un moment.
Le déluge est arrivé à ce moment-là,
c'est non, le déluge a commencé le 17 du mois de Cheshvan. Peut-être qu'il y aura un rapport au niveau de quand le déluge a... C'était 40 jours où l'eau a tombé, après 150 l'eau a resté. Il faudra voir s'il y a un rapport. Dans la paracha de Shemot, on voit que Pharaon, il s'est dit, on va jeter tous les nouveau-nés dans le Nil. Disant qu'il n'y a pas de risque que Dieu se venge. Moi, je vais maintenant noyer les enfants d'Israël dans l'eau. Il n'y a pas de risque que Dieu va se venger avec de l'eau, en nous noyant nous dans l'eau. Parce qu'il a déjà promis, après le déluge, que plus jamais il y aurait de déluge. D'Israël, il s'est trompé. Parce qu'effectivement, Dieu a promis qu'il ne mènerait pas un déluge sur le monde entier, mais sur une nation, oui, une ou deux nations, pourquoi pas. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu attaque avec l'eau? Le déluge, Mitzrayim, les Égyptiens, et tsunami. L'eau, il y a quatre bases, avec lesquelles le monde a été créé. Bases qui sont des bases spirituelles, qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, mais qui se matérialisent ici sur quatre bases. L'une, c'est la terre, l'autre, c'est l'eau, la troisième, ce sera le feu, et la quatrième, ce sera l'air. C'est comme ça que le monde est créé. Et nous, nous aussi, en nous, on a ces bases-là, pas au niveau physique, au niveau métaphysique. La paresse provient de la terre. C'est la partie lourde. Quand le matin tu veux te lever, tu sens que tu pèses 10 000 kilos parce que tu as la terre qui ne veut pas bouger. L'eau, c'est l'envie. L'envie, ça c'est l'eau. Pour moi, que l'envie chez nous, c'est le yesod, la base spirituelle, eau.
Quel rapport entre l'eau et l'envie? La terre, je comprends, c'est lourd, c'est pesanteur, c'est...
Je ne peux pas te le dire, mais ça se sent très très fort. Non? L'eau, c'est mouvant, l'eau, c'est romantique, l'eau, c'est... C'est la source, l'eau, c'est la source de vie qui provoque l'envie. Le feu, c'est la colère. Et l'air, c'est... Les paroles vaines, d'accord? Babiler, parler pour rien, les paroles vaines. Ce qui est interdit près de la Torah. C'est marqué Bedi Barta Bam. Vous parlerez Bam dans les paroles de Torah, mais l'autre va rimbetiler, mais pas des paroles vaines. Je ne sais pas que je voudrais parler de choses qui sont nécessaires. Mais parler pour rien dire, d'accord? Pour papoter. Voilà. Le papotage, à moins que ce soit nécessaire pour des raisons psychologiques. Il y a des gens qui, s'ils ne parlent pas, ils papotent pas un peu, alors ils deviennent très tristes. Alors c'est important pour des raisons, ce sont des malades, d'accord, qui ont besoin de papoter. Ok, ils doivent papoter. Papotons. D'accord, mais si on papote trop, alors on touche ici une des lettres au nom de Dieu qui forme notre être spirituel, celui qui correspond à l'air. Babylé, l'air, blablabla, d'accord, c'est... L'air, c'est on fait sortir un rouar, un vent. Donc l'eau, c'est l'envie. L'Égypte était appelée Ervat Haaretz. La débauche, le centre, Erva, littéralement, c'est le sexe, d'accord? C'est le centre sexuel du mal, du monde, c'était l'Égypte. Le centre sexuel mondial du mal actuel, c'était où?
Thaïlande.
Pardon?
Thaïlande.
Maintenant, quand quelqu'un... Dieu permet la relation sexuelle, mais il faut qu'elle reste dans un ordre. Il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Quand on franchit ces barrières, Alors on provoque aussi que l'eau, cette base du monde, elle va franchir aussi les barrières. Si c'est passé. Et c'est passé spécialement, donc le premier jour de Shovavim, le premier jour où justement c'est là qu'on est censé réparer, c'est le moment le plus important de réparation, d'importance de tout ce qui concerne ce domaine d'interdiction sexuelle. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous? Les grands kabbalistes, elles nous déconseillent fortement de le faire, eux ils jeûnent. Ils jeûnent 84 jeûnes de suite. De suite. C'est-à-dire ils jeûnent le jour, ils mangent la nuit.
À part Shabbat,
à part Tu Bishvat et Rosh Chodesh. Tout le reste, ils jeûnent. À partir de samedi soir. Maintenant, nous déconseillons parce que ça affaiblit beaucoup. Surtout ceux qui lisent la Torah, dont j'ai parlé une fois ici, que Shulchan Aruch dit que celui qui jeûne alors qu'il peut étudier la Torah, il l'appelait Chotei, il l'appelait pêcheur. Pourquoi? Parce qu'il amoindrit. Il amoindrit le service divin, parce que l'essentiel du travail, de la lumière qu'on peut avoir dans le monde, c'est par l'étude de Torah. Et lorsque tu vas jeûner, tu vas moins bien étudier, donc tu es appelé pêcheur, à moins que ce soit institué par les prophètes. On a quatre, à part Yom Kippour et Tisha B'Av, nous avons encore quatre jeûnes institués par les prophètes. Là, on ne peut pas, même que nous savons très bien qu'on va faire moins de Melchet Shamaim, mais le Dieu qui a dit maintenant d'étudier la Torah, il m'a dit aussi là qu'on devait absolument jeûner. Donc on jeûne. Mais prendre des jeûnes sur nous pour réparer les péchés, alors on le fera que sous indication d'une autorité rabbinique compétente, et d'habitude le rabbin dira pour des gens qui étudient la Torah toute la journée, de ne pas le faire parce que mieux vaut étudier. Pardon ? Ça a une certaine valeur, pas grand chose. Ça a une certaine valeur, mais pas grand chose. Pour Rabbi Noari, c'est très clair. D'après la Kabbalah, si tu veux vraiment réparer ça, il faut jeûner 84 jeûnes de suite. Il y en a qui font, il y a une autre combine, ils font 48 heures de suite. 48 heures, ça vaut 27 jeûnes. 72 heures de jeûne de suite, ça vaut 40 jeûnes. Ensuite, si quelqu'un a la force, mais c'est pas pour nous encore une fois, d'accord? C'est des choses comme ils vont pas en parler, pour pas qu'il y ait des fous qui commencent à jouer à cela. D'accord? Pardon? Alors c'est bien, toutes ces choses-là sont bien. Maintenant, on va parler exactement des choses que nous pouvons faire qui sont, oui, à notre niveau. Alors d'abord, on va partager en deux le travail. Il y a la prévention et il y a la réparation. Ça sert à rien de réparer si on ne fait pas la prévention auparavant. Donc d'abord, il faut au moins faire tshuva, réparer. Réparer par la prévention. C'est-à-dire que quand on fait tshuva, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Dieu, je regrette. Faire tshuva, c'est quoi tshuva? Il y a trois opérations. Dieu, je reconnais. Première opération, reconnaître. Dire à voix haute, j'ai péché et j'ai fait ça et ça et ça et ça. Il faut le dire. Pas en public, tout seul, envers Dieu. Deuxième chose, dire, je regrette et regretter. J'ai touché Yesod, j'ai touché des choses qui touchent l'être, dont des fois les conséquences sont colossales. C'est après, on voit des éducations difficiles d'enfants, que c'est difficile, le Shalom Bayit qui est touché, toutes ces choses-là proviennent d'habitude du Yesod. On ne peut pas encore mettre le doigt précisément à dire à cause de ça, mais des grands, grands rabbins, Razonich, entre autres, ils ont parlé de gens qui se touchent avant le mariage, ils font des choses qui ne sont pas ok avant le mariage. Il a dit Badouk Emunou, c'est le Chazonish, d'accord, c'est un ange, c'est le plus grand rabbin peut-être de ce siècle. Il a dit Badouk Emunou, c'est expérimenter et vérifier que ça amène des problèmes après de couple et dans l'éducation des enfants. Donc il faut faire très attention à cela.
Il parlait de relations sexuelles ou de se toucher la main?
Lui, il parlait de toucher. Même toucher la main. D'accord? Shomer Neguia. C'est interdit. Mais évidemment, plus tu vas grave, plus la conséquence, elle est grave. Maintenant, donc, j'étais à la deuxième opération de tshuva. Regretter. Troisième chose, prendre sur soi d'arrêter de faire le péché. Quand il fait ça, il a fait tshuva. Maintenant, il y a des péchés pour lesquels il faut, en plus de la tshuva, il faut aussi une certaine réparation. Mais rien ne sert de faire une réparation si tu n'as pas encore fait maintenant l'essentiel, c'est-à-dire dire je ne recommencerai plus. Donc il faut s'empêcher de recommencer. Donc la prévention. Alors, il est certain que tout avéra, tout péché volontaire, seul ou avec une compagne, est interdit, c'est évident. Si quelqu'un il sent qu'il ne peut pas, il ne se retient pas, alors il faut absolument, il y a un seul antidote, Dieu a dit, j'ai créé les tzara, il est fait de feu, et nous sommes faits de chair, nous ne pouvons pas résister au feu, parce que le feu dévore la chair, donc no chance. Contre les tzara, du feu, tu ne peux rien faire. Quelqu'un qui a une envie, qui le prend, vas-y, fais une douche froide, t'as la tête dans le mur, ça ne sert à rien, tu vas tomber de toute façon. Dieu a dit, j'ai créé un antidote, le seul antidote qui est de feu lui aussi. Kiko dvarai kaesh neum hashem, car ainsi ma parole comme du feu, discours de Dieu, la parole de Dieu elle est du feu, Torah. Et moi je peux dire, badouk umenousse, c'est vérifier, expérimenter. T'as une envie. Va au bet midrash, la Gemara elle dit, paga becham nouvalze, t'as attrapé ce salaud. En parlant du Yetzerara. Tire, traîne-le au Betamidrash. Il faut le traîner au Betamidrash. Non, non, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai pas la paix, ta ta ta. Alors, on a, c'est... Traîne-le. Comme un, tu lèves la jambe, tu avances comme ça. Tu le traînes au Betamidrash. T'ouvres, c'est très dur, ouvrir le livre de Torah, si vous suivez la Gemara. Baisser le nez dedans et lire et commencer. C'est très dur, tu vois les bonnes femmes qui te sortent entre les lignes. Tiens bon, une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures. T'étudies bien pendant trois heures, tu ressors, et qu'est-ce qui m'est arrivé avant? T'es quelqu'un d'autre. Froid comme un glaçon.
Deux heures, trois heures, il faut.
Ouais, au moins. Enfin, je sais pas, ça dépend de à quel point tu es chaud, d'accord. Mais c'est magique. C'est magique. C'est miraculeux. Tu as des gens qui étaient habitués à une consommation extrêmement élevée, et tu les vois, ils arrivent à la yeshiva, avec l'étude de Torah, et tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans. Pas possible. C'est humainement... les médecins disent qu'un homme ne peut pas tenir, je crois, 3 semaines sans avoir une fois de la semence en vin. 3 semaines. Des gens qui tiennent des mois et des années. Des mois et des années. Torah. Magique. Ça marche. Mais pas Torah pépère. Comme ça, tu tues un peu, après tu vas boire un café, tu fais une cigarette, tu reviens, tu lis une phrase, après encore un peu de politique, un peu de ça. Avec ça, ça calme. Ça, c'est en ce qui concerne d'abord si quelqu'un est pris par les envies. Maintenant, moi, je parle d'autre chose tout à fait. Les semences, comment on appelle ça de nouveau ? Semences en vin, involontaires. La nuit, pollution nocturne. C'est aussi un péché, évidemment c'est 10 000 fois moins grave au moins, enfin je ne vais pas dire en chiffres, mais en tout cas c'est beaucoup moins grave, mais il faut éviter, parce que ça touche dans la kedusha, ça touche la personnalité, la sainteté de la personne. Alors il y a des moyens d'éviter. Premier moyen, qu'est-ce que c'est ? Très bien. Il y a une alimentation des glandes testiculaires qui se fait par les yeux. Il y a un rapport assez évident entre les yeux et les glandes. Qui alimente les glandes ? Les yeux. Pas au niveau physique, mais au niveau métaphysique. Même la Gemara dit qu'il y a, en fait, il y a un nerf. D'accord ? Tout le monde sait qu'il y a un nerf. Les yeux. Le travail commence ici. Si on veut travailler maintenant durant ces 6 semaines, ça commence par là. Parce que quand on voit, on pense. Et quand on pense, eh ben, on est doté d'un corps qui, Baruch HaShem, fonctionne comme il faut. Et quand tu penses, ça fait ses effets, c'est tout. Et même quand tu ne veux pas y penser, mais tu as vu, tu es alimenté, tu as une touma qui est là. Je vous rappelle, si vous ne savez pas encore, regarder une femme, voir une femme, c'est permis. Si je la vois, je lui parle comme un garçon. Que je ne parle pas à un garçon comme si je parlais à une femme, d'accord. Je parle à une femme comme je parle à un garçon normal. Quand je parle à un garçon, je ne regarde pas la forme de sa cuisse ou la rondeur de ses bras, d'accord. Si je suis normal. Donc si je parle avec une femme en lui parlant normalement, ça, c'est permis. Et encore, il faut faire attention. Pourquoi faut faire attention? Parce qu'on peut voir, on ne peut pas regarder. Or, voir une femme, c'est vraiment de l'acrobatie, c'est très dur. Surtout quand on a les yeux qui sont habitués à regarder une femme. Regarder, c'est jouir, profiter de sa beauté. Profiter de ses formes. Une forme féminine, de façon naturelle, elle intéresse le corps de l'homme. Regardez, les femmes aiment être regardées. Elles ont toujours des garde-robes qui sont en moyenne 10 fois plus grandes que celles des hommes. Elles se mettent des bijoux et se maquillent. Les hommes aussi, mais moins. Les bijoux se maquillent, pas trop. L'homme, il est complémentaire, il aime regarder la femme. Maintenant, tout va très bien quand c'est ta femme et quand c'est ton mari. Mais les autres, non. Donc on doit être capable maintenant de réfréner les pulsions normales, corporelles que Dieu a créées pour que je regarde ma femme. Sinon, pourquoi je la regarderais, d'accord? Non, il faut regarder ta femme. Mais ta femme, les autres, il faut les voir. Or, c'est pas facile. Donc, c'est de l'acrobatie. Arriver à voir, peut-être, hein, tu parles, arriver. Évidemment, si elle n'est pas bien habillée, elle a des habits qui sont provocants, ce qui est hélas très courant en France, ça devient carrément pas... c'est pas l'acrobatie, c'est de la haute voltige, d'accord? Arriver à voir une femme sans la regarder alors qu'elle est habillée de façon à ce qu'on fait tout pour arriver à exciter tes pulsions. Bah, c'est de la haute voltige. Il est interdit d'après la Torah d'Oraita. C'est interdit de la Torah comme manger du porc. On le dit tous les jours, deux fois par jour dans Shema Israël. Vous n'irez pas après vous ne divirez pas après votre cœur, après vos yeux. Le cœur, c'est poser des questions sur l'existence, la véracité de la Torah. Est-ce que Dieu existe, oui ou non? La Torah est-elle vraie, oui ou non? C'est une chose qui est interdite. Et de même, vous ne dévirez pas après vos yeux. Chazal, on dit, c'est znout. Znout, ça veut regarder de façon débauchée. Regarder une femme en profitant de sa beauté. C'est interdit. Je sais que dire cela à des Français, c'est colossalement difficile. Parce qu'il n'y a pas de pays que je sache au monde où l'empire de la jouissance des yeux a été autant exalté. C'est la France, Paris, d'accord, c'est unique au monde. Mais rien à voir, Londres. Rien à voir. Rien à voir.
C'est pire.
L'Italie.
Mais non.
L'Italie, Londres, Paris, c'est comme
l'Espagne, Madrid.
Quand tu parles de la mode, mode quoi? Mode de Londres? Mode londonaise. Oh, c'est vraiment... Mode parisienne. Paris, c'est un nom. Monde londonienne, ah, ça fait... Hein? C'est où le raffiné, pas le bête ou bon, d'accord? Voir des femmes déshabillées, il y en a partout. Mais raffiné pour allumer. Des gens qui reçoivent des millions pour pas trop montrer, pas assez, juste comme il faut. C'est un art. Paris. On affiche 10 mètres sur 10 partout. Donc première chose, en ce qui concerne la, qu'on appelait ça, la prévention, les yeux. Ensuite, les pensées. Parce que même si tu as arrêté de regarder, mais le souvenir de ce que tu as déjà vu ou vécu, ça revient. Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, il y a des choses, je vais en parler, mais... Le mieux, c'est penser à autre chose. Pas penser à ne pas penser à ça. Regarde, on va faire un exercice maintenant. Tous ne pensez que personne ne pense à une banane.
Pensez que quoi ?
Que personne ne pense maintenant à une banane. Une banane. Ne pense pas à une banane. Surtout pas. Hein ? Tu vois une banane ? Il ne faut pas que je pense à elle. Ah non, il ne faut pas que je pense à elle. Ça devient tordu. Et ça revient encore plus fort. Il faut se concentrer sur autre chose, si possible en Torah. La Torah, c'est vraiment... Si ça, c'est l'obscurité, l'image de la bonne femme, c'est vraiment... Il faut expliquer qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai regardé une femme, quand j'ai fait une avera avec une femme, alors je crée une réalité spirituelle négative, qu'on peut appeler démon, appeler comme si vous voulez. Ça, j'aime pas, parce que démon, c'est les connotations, on voit des petits bonhommes avec des queues et des chaudrons, d'accord? C'est pas ça. Une réalité spirituelle négative. Elle existe, cette réalité. Un ruartouma, un souffle d'impureté, il est là, il est en moi. Ce souffle d'impureté, il vient maintenant m'impurifier, c'est son but. Quand je fais l'exercice de faire partir cette mauvaise pensée, quelque part, je casse. J'ai détruit ce démon, cette réalité. Vous me direz, mais il revient plusieurs fois. À des fois, il est très gros. Il est très gros, ce démon. Donc, il revient très souvent. Alors, chaque fois, tu l'amoindris. Au bout d'un moment, il partira complètement. Il ne reviendra plus. Maintenant, c'est vraiment l'obscurité. Lui, tant que tu ne fais rien dans ta vie, ça va. Il ne dérange pas trop. Quand tu commences à te purifier, tu étudies la Torah, tu veux prier. Au moment les plus sains, il va venir. C'est très bon signe pour nous. J'ai eu des gens qui étaient découragés. Une fois, il m'a dit, quelqu'un, je connais quelqu'un, un cousin éloigné à moi, il m'a dit, après ce qu'il était à Torah, parce qu'il fait, quand c'est le chemin, il serait là. Kippour, à ce moment-là, j'ai eu des images comme ça. C'est pas pour moi. C'est exactement le contraire. Ça veut dire que l'univers, s'il te dérange à n'importe quel moment, bon, c'est rien, mais quand il vient au moment le plus sain, pourquoi il vient à ce moment-là? Avant, une heure avant, t'as pas pensé, une heure après, t'as pas pensé. Juste au moment le plus sain, il vient à ton kikiné avec une image terrible. Ça veut dire quoi? Que t'es en bataille avec lui. T'es en bataille, et maintenant, ce moment sain, ça l'ennuie à lui. Tu viens maintenant l'enkikiner. Alors lui, ton kikiné en retour, mais c'est bon signe. C'est-à-dire, tu es en train maintenant, la lumière de ta sainteté, est en train maintenant de dégager, de faire partir l'obscurité, le mal. Le mal ne va pas se laisser faire. Il envoie ses flèches. Mais c'est très bon signe. Il n'y a pas de meilleur signe pour quelqu'un qui sent maintenant qu'il est en train de monter. C'est quand, c'est Archimède. Quand tu exerces une pression, Archimède, hein, quand tu exerces une pression dans l'eau, tu as toujours une pression inverse proportionnelle. Si quelqu'un dans sa vie, tout va très bien, c'est-à-dire qu'il stagne, il ne faut rien du tout. Quand on monte, c'est dur. Il y a gata matzata ta'amin. Tu as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné, tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. Ça n'existe pas, monter en sainteté, en kdoucha, en réalité vraie, c'est impossible de monter sans effort. C'est pas possible. Donc, quand maintenant tu fais de la kdoucha, tu fais Shema Israël, tu pries avec Kavana, tu as des images qui viennent, c'est tout à fait normal. C'est que tu es en train de monter, tu es en train de donner un coup de poing dans le mal. Coup de poing dans le mal, donc il y a pression inverse proportionnelle, tu reçois un coup de poing en retour. Vas-y, bats-toi. Alors, comment faire? Pensez à autre chose. Il y a des noms de Dieu qu'il est bien de voir. Quand on voit certains noms de Dieu, ça aide beaucoup à enlever les mauvaises pensées. Alors, il y a un nom qui est amené dans le Mishnah Berurah. C'est même pas un nom, pas besoin de penser là, il faut faire autre chose. Il faut dire trois fois, pi, pi, pi. Pas deux fois, trois fois.
Peyoud.
Peyoud.
Peyoud. Il y a un rapport avec pi 3,14,
non, aucun rapport que je sache. Pi, ce sont rachetés votes, ce sont les acrostiches de Palti Yosef. Paltiel Ben Laïch, c'était un héros de la Bible. Et Yosef, c'est aussi un autre héros de la Bible. Ce sont deux héros qui étaient peut-être les plus grands dans la résistance contre les envies sexuelles. Yosef, qui a été attaqué par une des plus belles femmes que le monde ait connues, c'est la femme de Potiphar, qui tous les jours venait lui dit, viens, couche avec moi, et il a résisté. Yosef, ça c'est le I. P, c'est Paltiel. Paltiel Ben Laïch, c'est quoi son histoire? Shaoul, le roi Shaoul, a promis sa fille Michal à David, à condition qu'il aille, qu'il lui amène 100 prépuces de Philistins. Le but de Shaul, c'est que David meure. Shaul était jaloux de David, il voulait que David meure. David ne meurt pas, et ramène 100 prépuces de Philistins. Il voulait que David meure.
Oui, d'accord, mais c'est quoi le butin que tu as demandé de ramener?
Montre-moi que tu as tué 100 Philistins.
Alors qu'il ramène la tête.
Une tête, c'est lourd. Il ramène des 100 prépuces.
100 têtes, vas-y.
David revient avec 100 prépuces. Maintenant, pour acquérir une femme, il faut donner, on lui donne une bague. Mais il faut que c'est la chose qu'on donne ait une valeur au moins d'une pruta. Pruta, c'est aujourd'hui, c'est 6 ou 7 agourotes, ça fait, je sais pas, en euros, c'est un centime d'euro. Il faut que là, tu ne peux pas faire un acte de kidouchine, d'acquérir une femme, de faire un acte de sanctifier une femme, de se marier avec elle, si tu ne lui donnes pas une chose qui a au moins la valeur d'un centime d'euro. C'est pas que ça valeur à elle, elle vaut des millions, parce que dans l'acte tout bon, on met beaucoup d'argent, mais pour que l'acte ait une certaine valeur, il faut qu'il y ait un passage. D'ailleurs, très profondément, la mystique juive dira qu'à ce moment-là, il y a un passage d'âme, un passage de l'âme de l'homme qui passe dans la femme, pour que la femme devient interdite à un autre homme, parce qu'elle a en elle une partie de l'âme de son mari. C'est ce qui se passe au niveau mystique quand on donne la bague à sa femme sous la choupa. David ramène les prépuces, les donne à Shaoul. Et on peut donner à l'époque, on pouvait donner aussi cette somme au père de la fille. Et d'après David, donc, Michal, la fille de Shaoul, est sa femme à lui. Shaoul dit non, 100 prépuces de Philistins, ça ne vaut même pas une prouta, ça ne vaut même pas un centime d'euro. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que je peux faire avec 100 prépuces de Philistins? Ça va à la poubelle, ça ne vaut même pas un centime d'euro, pas même pas une prouta. David dit non, on peut le donner à des chats, les chats ils aiment bien manger cela. Marloquette, discussion. D'après Shaoul, sa fille n'est pas mariée à David. D'après David, Elohim est marié. Qu'est-ce qu'il a fait Shaul? Il a pris sa fille Michal, elle a donné à Paltiel ben Laish, à Palti. On l'appelle Palti. Palti savait qu'il y a une discussion de David, et Shaul s'est dit, bah, peut-être cette femme, peut-être c'est une femme mariée, peut-être c'est la femme de David. Et moi, si je vais avec elle maintenant, je me marie avec elle, c'est une femme adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée et l'a plantée au milieu du lit, entre les deux. Et que celui qui traverse cette épée d'un côté ou de l'autre du lit, qu'il soit transpercé par cette épée. Et quoi? Pourquoi on prend sur nous maintenant en aucun cas on a de relation, on ne se touche pas. Ils ont vécu. Et ils étaient amoureux, la Gemara dit, ils étaient amoureux l'un de l'autre pendant des années et des années, jusqu'à ce que David devient le roi d'Israël. Et là, David a repris Michal. Il a vécu avec elle, dans la même chambre, dans le même lit, avec un couteau au milieu, arrivé comme ça à tenir le coup. La Gemara dit, l'épreuve de Yosef, l'épreuve de Boaz, Boaz aussi il a eu une épreuve, avec Ruth qui est venue dans son lit au milieu de la nuit, il lui a dit, attends, jusqu'à demain que je te marie comme il faut, il y a aussi une épreuve à ce niveau-là. On dit que c'est deux épreuves de rien du tout par rapport à Paltiel ben Laish. Quand on dit Pi, il faut penser Palti, Yosef. On dit trois fois Pi, 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 en se frottant le front avec la main droite. Ça aide à faire partir les mauvaises pensées. Un truc à savoir. Deuxième chose, oui.
On dit que Michal, quand Shaul a voulu prendre David et le tuer, il a fait entourer sa maison de garde. Et Michal l'a fait descendre par la fenêtre avec une corde et qu'il a pu s'enfuir comme ça. Alors finalement, on voit quand même qu'il était marié avec Michal, même avant ça.
Pourquoi marié? Le fait qu'il ait fait s'enfuir et il est marié avec elle.
Mais il était dans la même maison.
La même maison. Il était chez le roi. David était chez le roi Shaul. Il venait jouer de la guitare, mais c'était pas la guitare de l'harpe. Ok. Deuxième nom qui sert à faire partie des mauvaises pensées. Il faut voir devant soi le nom que je veux pas. Ce sont des noms saints, des noms de Dieu, qui est les Rachetevot, qui sont les acrostiches, donc les premières lettres de trois mots que nous disons dans Anna Bechoar. Kabel, Rinat, Amecha, Sagvenu, Taharenu, Noah. C'est en fait les lettres Kouf, Resh, Aïn, c'est un mot. Le deuxième mot, c'est Sin, Tet, et puis Nun. Vu que je dis et puis au milieu, c'est donc je n'ai pas dit le nom en entier, qui signifie en fait grâce et déchiré. Sin, Tet, et puis Nun, c'est le Sat. Je ne vais pas dire le nom, ce n'est pas bien de prononcer ce nom, même en français. Le Sat, et puis le An, d'accord? Le côté mauvais. Le sat, comme on dit en français, ça vient du mot en hébreu, c'est ce qui fait nous dévier. L'istot, c'est mis dévier. C'est un nom de Dieu. C'est un nom saint. Le nom entier, kra et sat, avec le nun à la fin, c'est un nom de Dieu. Le deuxième nom, sat, c'est le nom du mal qu'il ne faut pas rappeler, même pas en français.
Que Dieu, dans son nom, il a le nom du...
Oui, parce que dans le nom de Dieu, il y a une partie qui est qu'il casse le mal, il aide à... C'est l'antithèse. Oui, le nom Kra.
Ils sont en deux mots.
Oui, ils sont en deux mots.
Un nom en deux mots.
Oui, un nom en deux mots. Qui est Kra, Sat, et puis An. D'accord? Sat, et puis An. Ça, c'est deux mots. Alors, il faut voir devant soi ces lettres-là. Six lettres. Kouf, Resh, Ain, et puis Sin, Tet, et puis Nun. Ok? Ça, c'est un mot qui sert beaucoup, même s'ils arrivent des fois en rêve, on fait un rêve, on voit quelque chose, quelqu'un, il fait attention, il a une petite conscience dans le rêve qu'il ne veut pas, il ne veut pas. S'il voit ce mot-là, en une seconde, l'image, elle éclate en petits morceaux. Mort. C'est un nom très puissant. Pardon? Badoukou Menoussé. Badoukou Menoussé, c'est expérimenté. On le dit aussi personnellement, c'est expérimenté, c'est Badoukou Menoussé, c'est évident. Maintenant, un troisième nom, qui est beaucoup moins connu, mais qui est le plus fort de tous, que je vous dis maintenant, c'est le Rav Aaron Raté, qui le ramène dans son livre. Il est un des plus grands admorim de ce siècle, qui a écrit un livre sur la Kedusha, sur la pureté au niveau sexuel. D'accord? Ça s'appelle Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté. Un livre qui est ici, dont je recommande beaucoup la lecture, mais assez dur d'accès pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu. Et là-bas, il dit qu'il ose dévoiler ce nom saint, et qu'il demande à Dieu de l'excuser d'avoir osé dévoiler un nom qui est tellement saint, tellement terrible. Et c'est un nom vraiment très fort. D'expérience personnelle, à mon avis, c'est le nom le plus fort. Il faut voir devant soi les six lettres suivantes. Gimel, Daled, Shin, Nun, Aleph, et puis Lamed. Gimel, Daled, Shin, Nun, Aleph, et puis Lamed. C'est un nom de Dieu, parce que la dernière lettre, c'est quel, le nom de Dieu, un des noms de Dieu. On voit ce nom-là, c'est extraordinaire de puissance.
Le roi, pas le tien.
Non, on n'a pas le droit de dire ce nom. Tous ces noms-là, voilà. Gad, Shen, Kel. Moi, je souviens dire Gad comme un des fils de Yaakov. Gad, Shen, c'est une dent. Kel, c'est le nom de Dieu. Aleph et Lamed, d'accord. On dit Kel. En un seul mot. On peut l'écrire, mais attention, de ce nom-là, une fois que vous l'avez écrit, il ne faut pas le mettre dans les toilettes, il ne faut pas le déchirer, il ne faut pas l'effacer. Et quand on a fini, on met la Gniza. C'est un nom saint, c'est un nom de Dieu.
Comme celui d'avant.
Comme celui d'avant aussi. Oui, Yud Kevavke aussi, ça marche. Voir devant soi, Yud Kevavke. De toute façon, c'est bien toujours de voir Yud Kevavke devant soi. Maintenant, ça, c'est au niveau des pensées.
On peut pas penser à ces noms dans les endroits...
Non. Dans les toilettes, dans les bains publics, sous la douche, on n'a pas le droit de penser à ces noms-là. Pensez à autre chose.
Explication du dernier nom. Il n'y en a pas.
Non, c'est un nom d'ange, un nom de force puissante. Un nom de Dieu, c'est un nom d'une force divine. C'est une force divine, très haute, très puissante, qui a une capacité extraordinaire de casser les mauvaises pensées.
Vous dites que Babi Kobi aussi peut s'en
apprendre. À mon avis, ouais. Oui, chez moi, ça marche. J'avais ici un élève qui était un grand, grand tordu. Et j'ai fait ce cours-là, il y a un an et demi, après il est venu me voir le lendemain matin, c'est extraordinaire, extraordinaire. Il est beaucoup attaqué par ses... Il m'a dit, c'est extraordinaire comme ça marche bien. C'est un nom qui marche très bien. Essayez, vous verrez vous-même. Chacun.
En entier ou l'être parlé ?
En entier.
Et si on n'arrive pas à
se... Essayez.
Il faut l'écrire, comme ça tu
le voilà.
Tu
voilà. Tu l'écris, tu le vois, voilà. Tu le mets dans quelque part, voilà, tu t'habitues. Ok, ça c'est au niveau de là. Vous me dites quand c'est l'heure déjà ? Bon, alors on continue la prochaine fois pour encore la prévention et les réparations surtout de Shovavim. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.